On va passer à travers d'un message. Tu sais, quand on a chanté tantôt, d'avoir la foi. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas nous autres qui inventons ça, ce phrase-là. C'est Jésus lui-même qui le dit. Alléluia. Puis il a dit à Marc, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Autrement dit, toutes les promesses sont là, il s'agit juste d'y croire, puis on va les voir. Si on y croit pas, on les verra pas. Tout est dans la foi. Tout va se saisir par la foi. Mais notre salut, quand on est venu à Jésus, c'est à cause de notre foi en Jésus qu'on a saisi le salut, saisi par la foi. C'est un cadeau qu'il nous donne, puis il nous sauve. Merci Seigneur. Mais toutes les autres promesses de la Bible, c'est la même chose. C'est par votre foi que vous allez saisir les promesses, une par une, les demander à Dieu, puis vous allez les voir. Ça va s'accomplir. Tout est possible à celui qui croit, parce que juste le verset avant, « Ayez foi en Dieu ». Si tu mets ta foi en Dieu, puis là tu saisis les promesses par la foi, tu vas voir la main de Dieu qui va agir. C'est ça qui est important. Puis nous autres, en tant que chrétiens, il faut se motiver, il faut s'encourager à toujours focusser, garder notre foi dans ses promesses, s'en rappeler de ses promesses, les remettre à la table, en parler souvent de qu'est-ce que Dieu peut faire. Puis là, on va être plus porté à dire « je m'accroche », on va voir les choses se passer. Gloire à Dieu. On continue l'étude qu'on a faite, qu'on a commencé il y a plusieurs semaines sur au niveau. Paul, il écrit une lettre à Timothée, puis il a dit à Timothée, Timothée, c'est un homme de Dieu qui suivait Paul, puis c'est un prédicateur, c'est un enseignant, c'est une personne placée par Dieu pour prêcher la parole dans des églises, et ainsi de suite, pour aller porter des messages de Paul, mais aussi pour redevenir comme pasteur. Puis à un moment donné, Timothée, lui, a eu un refroidissement dans sa vie. Y a-t-il un chrétien que ça n'a jamais arrivé de se refroidir? Ah, il n'y a pas de main de lever. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde de se refroidir. Timothée, qui est un homme de Dieu, qui était proche de Paul, il connaissait le ministère de Paul, puis le zèle de Paul, puis il marchait dans les voies de Dieu. Il s'est refroidi, puis là, Paul, il a envoyé deux lettres. Puis il a dit à Timothée, « Timothée, prends garde au dépôt que tu as reçu. » Garde le dépôt par le Saint-Esprit, puis l'encourage à plusieurs. Je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Puis à plusieurs reprises, Paul, c'est comme qu'il essaye de stimuler la foi à Timothée pour dire, Timothée, réveille-toi. Alors, prends ta position que tu as en Jésus. Parce que là, il est en train de prendre une drop, puis Paul le voyait. Puis avec amour, Paul l'encourageait. Puis nous autres, on est en train d'étudier différentes... Parce qu'il parle du dépôt, prends garde au dépôt, mais c'est quoi le dépôt? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le dépôt? Puis au point où qu'on est rendu ce matin, je parlais sur les armes et la puissance de Dieu à notre disposition. Des armes et la puissance de Dieu qui ont été données à chaque croyant quand vous êtes converti. C'était déposé là, disponible pour chacun de nous. Pas juste pour le pasteur, pas juste pour les évangélistes, pour chacune de ces brebis. Vous êtes une brebis du Seigneur ce matin? Vous avez donné de votre vie au Seigneur? Vous avez cru qu'il est mort sur la croix pour pardonner vos péchés? Vous l'avez fait la prière pour vous repentir? La Bible a dit à partir de ce moment-là, t'es né de nouveau, le Saint-Esprit est rentré dans toi, puis là, il t'a équipé. Il t'a déjà donné un dépôt. Ce dépôt-là, c'est un acompte. Je l'ai déjà expliqué. Tu vas au magasin, tu vas acheter un objet, tu donnes un dépôt sur cet objet-là. L'objet coûte 500$, tu lui donnes 50$ de dépôt. Puis là, tu lui dis, je m'en viens le rechercher, cet objet-là, je l'achète, tu donnes 50$ pour montrer que je suis vraiment disposé à l'acheter. Puis je vais revenir pour payer le restant. Mais Jésus a mis un dépôt en chacun de nous. C'est un acompte. En attendant, je m'en viens vous chercher. Tout le reste est déjà payé. C'est juste qu'en attendant, vous avez un dépôt, mais dans ce dépôt-là, on retrouve toutes sortes de choses. Puis une des choses qu'on retrouve, qui est à la disposition des chrétiens, que Jésus s'attend à ce qu'on prenne ce dépôt-là, puis qu'on c'est un acompte en attendant, puis il dit, fallait fructifier. Arrange-toi pour que ça produise, que ça augmente, que ça se multiplie. Le contraire de ça, c'est on l'enterre, on n'ose pas rien faire. Avec ce que Dieu nous a confié, puis on laisse mourir ça tranquillement, puis on attend que Jésus revienne, puis là, on espère qu'il ne sera pas trop fauché. Mais le contraire de ça, c'est que tu prends ce que Dieu t'a donné, puis là, tu dis, Seigneur, Là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, il dit, va faire ça, fais ça. Puis là, tu commences à t'investir dans l'œuvre de Dieu. Puis le dépôt se multiplie. Et dit, Jésus, quand il a dit ça au serviteur, il a dit, si t'aurais mis ça à la banque, ça l'aurait produit. Automatiquement, ça produit un intérêt. Mais l'idée, dans notre vie chrétienne, tout ce qu'on a reçu, faut pas l'enterrer. Faut commencer à mettre ça en action. Dieu a des attentes pour chacun de nous. Il a dit, il a déposé un dépôt en chacun de nous. Il y a dedans, il y a des dons. Et des... On a vu plein de choses. Puis maintenant, on fera un résumé de tout l'ensemble. Aujourd'hui, il faut se rappeler du dépôt. C'est les armes et la puissance de Dieu à la disposition des chrétiens. C'est pour ça qu'on a rechanté deux fois le chant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Les armes et la puissance de Dieu sont déjà mises à notre disposition. Puis Jésus s'attend à ce qu'on les utilise. Qu'on les prenne, puis là, par la foi, ben c'est pas des choses visibles. Je vois pas d'armes nulle part, là, si je regarde avec mes yeux humains. Mais il y a des choses de révélées dans la Bible qui sont des promesses incroyables, puis c'est des choses qu'on doit saisir, puis ça, c'est à moi. Puis je ne laisserai pas l'ennemi me voler ça, c'est à moi, Jésus m'a donné ça quand je me suis converti. Puis si on prend ça, puis on utilise ça, on va voir la gloire de Dieu, on va voir des miracles, on va voir des guérisons, on va voir des délivrances, on va voir la puissance de Dieu en action. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent voir la puissance de Dieu en action? Puis c'est pas juste le dimanche, la puissance de Dieu en action. Vous avez dit des témoignages tantôt, c'était tout dans la semaine. Il n'y a pas eu gros des témoignages de dimanche, et des témoignages dans la semaine. Donc, la puissance de Dieu, c'est pas juste le dimanche, c'est dans la semaine aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller lire tous les passages. Ceux qui prennent des notes, là, ils écrivent vos passages. Moi, je vous les lis directement. Il faut prendre conscience que tout, quand Jésus est mort sur la croix, puis il a dit « tout est accompli », c'est déjà tout accompli. Tout est déjà payé, tout est déjà ramassé, qu'est-ce que Jésus devait ramasser. Tout ce que Jésus devait renverser, c'était renversé, quand je pense à la puissance des ténèbres. Puis quand que Jésus a donné les choses à l'Église, c'était déjà tout donné. Il n'y a pas d'autres choses qui doivent être gagnées. C'est déjà tout payé par Jésus, puis toutes les armes de Dieu sont déjà toutes à notre disposition. 2 Pierre 1,3 nous parle, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » C'est déjà tout donné ce qui était nécessaire pour que vous viviez en chrétien. Puis pour que vous marchiez dans la piété, pour que vous marchiez dans la victoire, pour que vous marchiez au-delà de toutes les circonstances, tout nous est déjà donné. Puis par un moyen, par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, tout est révélé à travers les enseignements de Jésus. Tout ce que Jésus a enseigné dans la Bible, là-dedans, là, tu vas retrouver tout ce qui est nécessaire dans l'enseignement de Jésus, là, tout ce qui est nécessaire pour que tu marches dans la victoire, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Tout est déjà là. Donc, il ne faut pas attendre, « Ah, Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner ça? » C'est déjà donné, c'est déjà payé. Comme qu'on a dit, « Ah, il a pris nos péchés. » C'est déjà payé, nos péchés. Il a pris nos maladies. C'est déjà payé, nos maladies. Il a pris nos infirmités, il a pris nos fardeaux. C'est déjà tout payé. Tout ce qu'on a à apprendre, c'est de réaliser que c'est payé, puis là, de saisir par la foi ces promesses-là. Puis là, tu vas pouvoir les vivre. Mais ça dépend de ta foi. Dieu nous a déjà donné toutes les armes pour le combat, mais il est nécessaire de les prendre pour les utiliser. C'est comme si je vous demande d'aller creuser un trou dehors, je mets une pelle, là, puis si tu prends pas la pelle que j'ai mis à côté, puis tu commences à creuser le trou avec tes mains, tu vas avoir de la misère. Si Dieu nous demande de faire une chose, il nous met aussi tout ce qui est avec pour la faire. Mais par la foi, il faut comprendre que ces outils-là sont déjà là. Il a déjà tout donné ce qui contribuait à ta vie et à la piété. Tout est là, tu as juste à le prendre et utiliser ce qu'il a mis là. Puis là, tu vas pouvoir creuser ton trou. Il y a des choses là-dedans qu'il faut comprendre parce qu'on ne le sait pas en partant. Il y a des choses que ça s'apprend en lisant la Bible, en écoutant les enseignements. Là, on découvre c'est quoi les armes de la puissance de Dieu. Puis on découvre c'est quoi les promesses. Puis là, on peut les saisir. Fait qu'il y a des choses qu'il faut apprendre. On ne le sait pas automatiquement. Il y a d'autres choses qu'il faut que tu enlèves de ta vie, puis il y a des choses qu'il faut que tu rajoutes dans ta vie. C'est quelque chose que tu deals avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi j'ai telle affaire, là, ça marche pas, ça, j'en remets entre tes mains. Puis c'est écrit dans la Bible aussi que telle affaire qui est pour moi, je les prends. Puis par la foi, Dieu te les donne. Puis là, tu peux être efficace dans son œuvre. Puis en Romains, il nous encourage, en Romains 13, 12, il dit « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. » C'est quelque chose où tu t'enlèves. Puis revêtons-nous des armes de la lumière. C'est quelque chose que chaque chrétien doit se revêtir. Chaque jour, tu demandes au Seigneur de te donner ces armes-là. Elles sont déjà là. C'est des outils, c'est des choses qu'il a déjà toutes faites. Il faut que tu ailles les chercher. T'enlèves ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, tu lui dis au Seigneur, moi je vais lâcher ça. Mais il y a aussi des choses dans ta vie chrétienne, il faut y aller chercher. Ils sont là. Mais Seigneur, revêt-moi. C'est comme s'il dit à nous autres de se revêtir. Jésus était déjà prêt à nous revêtir. C'est déjà tout payé. Mais si on ne l'apprend pas, on va commencer à creuser le trou à la main. C'est comme un chirurgien quand il rentre dans la salle d'opération. Il enlève son vieux linge, son linge en civil, normal, là, quand il est venu travailler le matin, il est habillé en, comme tout le monde. Puis là, il enlève son linge, puis là, il met sa soute de chirurgien. Tout est propre, tout est clean. Bon, quelque part, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a des choses que tu enlèves dans ta vie chrétienne, des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu enlèves ça, puis là, tu te revêtes, tu dis au Seigneur, là, Seigneur, je veux être revêtu de ça. Je veux aller chercher ces outils-là. Je prends ce que tu me mets à ma disposition. Là, tu marches avec ton soute de chrétien. C'est par la foi que tu réalises que c'est là. Faut que tu le saches que c'est là, puis après ça, faut que tu y dises, donne-moi-les. C'est déjà tout payé, mais il faut y aller la chercher. Je vais faire un survol rapide, parce que il y a tellement de stock là-dedans, là, à aller fouiller dans ces points-là. Je vais vous en donner juste 6 armes du chrétien. Puis dans chaque arme, ou en chaque arme et puissance, parce que des choses, c'est des choses puissantes que Dieu met à disposition des chrétiens. Il veut que tu réalises que c'est là, puis il veut que tu les saisisses. Puis il veut que tu les utilises quand tu en as besoin. La première des choses, c'est le sacrifice de Jésus puis son sang versé. Ça, c'est quelque chose de puissant qui nous donne accès à tout le reste. Dans Hébreux 13, 20, ça nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, là, il continue la phrase, le sang de Jésus qui était versé sur la croix, là, c'est un sang éternel. C'est pas quelque chose qui s'est arrivé une fois, il y a 2000 ans. C'est quelque chose qui était versé là, puis grâce à ce sang versé là, premièrement, ça a permis à Jésus de ressusciter, ça a permis à Jésus de se présenter devant le Père, puis Jésus s'est pas présenté là les mains vides, s'est présenté là avec son sang. Puis ce sang-là était déposé devant le trône. La même chose que les sacrifices dans l'Ancien Testament, il prenait le sang d'un agneau, puis il allait mettre ça, le sacrificateur amenait ça dans le lieu très saint, puis le sang était présenté pour pardonner le péché des autres. Le sang de Jésus, c'est le sang éternel, c'est quelque chose qui va demeurer éternellement présenté devant Dieu, puis grâce à ce sang-là, ça nous donne une alliance. Ça permet aux humains d'avoir une alliance avec Dieu. Vous cherchez de quoi de puissant dans la Bible? Grâce au sang de Jésus, ça m'a permis d'avoir une alliance avec Dieu le Père. Ça m'a permis d'être pardonné de mes péchés et que Dieu a fait une alliance avec moi. Puis maintenant, je marche en contact, en communion avec Jésus, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, parce que Jésus a versé son sang. Y a-tu de quoi de précieux sur la terre? Y a-tu de quoi de puissant sur la terre? Oui, le sang de Jésus qui était versé il y a 2000 ans, c'est excessivement puissant pour sauver toute l'humanité. Si tous les gens saisiraient par la foi que le sang de Jésus était versé, tous les gens pourraient dire, je veux être pardonné, je crois que ton sang était versé pour pardonner mes péchés, puis les gens l'accepteraient, mais ils seraient sauvés instantanément. C'est une ou la première acte, comme on peut dire, surnaturel de Dieu ou puissant. C'est beau les miracles et tout ça, mais miracles ne sauvent pas. C'est pas le miracle qui sauve, c'est le sang de Jésus qui était versé sur la croix qui sauve. Dans d'autres versets, ça nous dit, dans Éphésiens 2.13, « Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, à cause de nos péchés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » À cause du sang de Jésus, on est rapprochés de Dieu. À cause que Jésus a tout payé, on a un contact qui s'est établi. Un autre passage dans Colossiens 1.20, il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre ou dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. À cause du sang de Jésus, la paix est possible sur la terre, mais pas la paix entre tous les individus, la paix avec Dieu. Parce qu'en partant, on était tous sous la colère de Dieu. À cause d'Adam et Ève, à cause de nos péchés, on était tous dans les ténèbres, on était tous sous la colère de Dieu. Mais à cause que Jésus a versé son sang, ça me donne une occasion de goûter la paix avec Dieu, de pouvoir recevoir. Ça fait partie d'une des armes que Dieu met à disposition, qu'il ne faut jamais oublier. Il y a des chants qu'on chante là, comme « Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ? » Puis là, ça dit « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. » Toute la victoire du chrétien est à cause du sacrifice de Jésus et son sang versé. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut le chanter souvent. Il faut se rappeler que c'est là. Ça a une autre action dans notre vie. 1 Jean 1,7. Ça dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus n'est pas juste quand tu arrives à Jésus puis il te pardonne. Oui, le sang de Jésus te pardonne quand tu viens à Jésus. Mais tu continues à marcher dans la vie, tu fais encore des péchés. Et tu crois que le sang de Jésus continue à te pardonner et à te purifier de tous ces péchés-là. Tous les péchés que tu vas avoir tout le long de ta vie, crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois que le sang de Jésus continue, a la puissance dans le sang de Jésus, continuer à te pardonner et à te purifier de tous tes péchés. Gardez la foi. N'oubliez pas ça. Quand Paul il disait, je te rappelle Timothée, garde le dépôt. Il essayait de le motiver. Rappelle-toi tout ça. Ça fait partie d'une des choses qu'il ne faut pas oublier en tant que chrétien. Le sang de Jésus. Amen. Une deuxième chose de puissance que Dieu donne à ses enfants à partir du dépôt. Hein? Oui, mais qui fait partie de notre équipement, le Saint-Esprit. Hallelujah! Le Saint-Esprit, quand tu t'es converti, Dieu a mis le Saint-Esprit en toi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le Saint-Esprit? On retrouve le Père, on retrouve Jésus, on retrouve le Saint-Esprit. Ils sont trois dans une seule personne. Quand tu fais la paix avec Dieu en passant par le sang, tu es purifié, puis là, le Saint-Esprit peut rentrer si tu lui demandes. Avant ça, il ne pouvait pas rentrer parce que ta dette de tes péchés t'as pas réglée. Puis elle se règle juste quand tu passes à travers Jésus. Nul ne peut aller au Père que par moi, que Jésus a dit. Si tu veux aller au Père, retrouver cette paix-là avec le Père, ou ta communion avec le Père, ou marcher dans la lumière avec le Père, il fallait que tu passes en premier par Jésus. Reconnaître que Jésus a versé son sang. Là, son sang te purifie, à cause que tu es purifié, là, il te donne le Saint-Esprit. Là, tu marches avec l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ça, c'est un autre puissance de Dieu donnée à disposition des chrétiens. Hallelujah! Ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas notre force, c'est la force du Seigneur qui est en toi. Le Saint-Esprit, dans Actes 1-8, ça nous disait, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Tu vas être un témoin pour Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Recherche la présence du Saint-Esprit. Recherche en être revêtu du Saint-Esprit. Recherche les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus que juste une puissance, c'est une présence d'une personne. Puis il veut te conduire, il veut te diriger, il veut t'enseigner la parole, il veut te rappeler ce que Jésus a dit, il veut te délivrer, il veut te changer, il veut te transformer, il veut te conduire jusqu'à la fin de ta vie. Dans Jean 14, 26, il dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. » C'est en gardant une étroite relation avec le Saint-Esprit que tu peux être en communication et recevoir les instructions que tu as besoin de comprendre. Si on reste pogné dans des situations, là, c'est juste parce qu'on n'a pas été cherché, ce qu'il fallait pour aller savoir les directives ou les procédures ou comprendre, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas automatique, il faut que tu comprennes ce que Dieu met à ta disposition, puis après ça, tu peux les saisir par la foi, puis expérimenter les délivrances, les guérisons, les miracles de Dieu. C'est tout possible, c'est tout déjà payé, c'est tout déjà donné, mais il faut s'en rappeler que le Saint-Esprit, le sang de Jésus et tous les autres points qu'on va voir sont là pour les chrétiens, pour chacun de nous. Saisissons par la foi, on va voir de grandes choses. Amen. Un autre point de la parole de Dieu, un autre point de la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible en elle-même, c'est une puissance. C'est pas juste un livre. Oui, c'est un livre. Mais savez-vous que le mot, que ça veut dire le mot Bible? La Bible. Le mot Bible, hein? Le mot Bible veut dire livre. Le livre. Le livre. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là, qui n'est pas un livre comme les autres? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. La Bible a dit, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que tout cela n'arrive. Puis il dit même à l'autre place, le ciel et la terre vont disparaître, mais mes paroles demeurent éternellement. Puis il dit, c'est mes paroles qui vont juger le monde à la fin des jours. Les déclarations de Jésus qui sont écrites là-dedans, mais pas juste de Jésus, le Saint-Esprit, le Père, Dieu a parlé par des prophètes, Dieu a parlé par des rois, Dieu a parlé par ses serviteurs, ses apôtres, ses disciples. Il y a plein de choses décrites là-dedans là, qui sont une parole éternelle, puissante, qui ne passera jamais, qui va demeurer éternellement, puis que le monde entier va juger face à ce qui est écrit là. C'est quelque chose de puissant. Qu'on ait tout ça inscrit dans un seul petit livre qui a de l'air insignifiant, que des fois, il y a des gens qui prennent le livre et le garochent. Ils disent, c'est la Bible, ça, c'est pas bon. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Un jour, ils vont se rappeler de ça. Hey, il y avait là-dedans les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il aurait pu être sauvé par qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Parce que la Bible a dit dans Romains 1:16, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que c'est une puissance de Dieu, l'Évangile. La Bible, là, c'est une puissance de Dieu. Une des puissances de Dieu, parce que on va en voir plusieurs. C'est là, cette puissance-là, la Bible, pour sauver n'importe qui y croit. Y a-tu de quoi de puissant là-dedans? C'est extraordinaire, gloire à Dieu. Les versets, Jésus, il dit, non, c'est pas Jésus qui l'a dit, c'est un verset dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit, comme la pluie tombe du ciel, puis elle tombe sur la terre, puis après ça, elle s'évapore, puis elle retourne au ciel, puis là, ça forme des nuages, elle retombe. Il dit, de même qu'elle s'en va pas, ça envoie fait son effet. Il dit, de même ma parole, tant qu'elle sort de ma bouche, tant qu'elle sort, puis qu'elle est dit, puis elle est prononcée, la parole s'en retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. La Bible dit que la parole de Dieu, elle pénètre l'âme, puis l'esprit, les jointures, puis la moelle, puis elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, devant celui à qui on doit rendre compte. La parole de Dieu, c'est une puissance qui pénètre, puis c'est une puissance aussi qui peut nous régénérer, qui peut nous changer. Régénérer, là, dans le vrai sens que ça veut dire, ça change tes gènes. Ah, moi, j'ai les gènes de mon père. Mon père était comme ça, puis moi, je suis rendu comme ça aujourd'hui. Mais quand tu arrives à Jésus, tu as de nouveaux gènes que tu reçois. C'est celle du Saint-Esprit. Avec la parole de Dieu, elle te régénère. Elle change tes gènes. Ta nouvelle création que tu as reçue prend place. Puis là, tu marches dans la gloire de Dieu, puis tu es transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Tu ressembles de plus en plus à Jésus. C'est ça que la Bible nous déclare. Hein? T'as juste le goût de faire du bien. Avant, t'étais prête à frapper tout le monde, puis là, t'es prête à prier puis à bénir tout le monde. Alléluia. Et l'autre passage qui nous parle de la parole, il dit, prenez aussi le casque du salut. Bon, c'est pas ça. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On dit que la parole, c'est une arme. Oui, c'est une arme. C'est l'épée de l'esprit. Autrement dit, l'esprit qui est en nous, il veut frapper. C'est quoi son épée? La parole de Dieu. L'Esprit de Dieu prend un verset de la Bible, puis là, tu le confesses. Fouf! C'est un coup d'épée que tu viens de frapper l'ennemi. Tu frappes les circonstances, ça change. Cette même parole-là, hein, il a créé l'univers.
Amen.
Il dit, par sa parole, tu créas l'univers. Il est Seigneur. Par la parole de Dieu, Dieu a créé l'univers. Il a créé le monde invisible, puis il a créé le monde visible. C'est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Puis cette parole-là, il dit que la lumière soit. Pouf, la lumière est arrivée. Juste le prononcer, les paroles s'accomplissent, les choses se créent. Puis c'est cette même parole-là qui demeure éternellement. Jésus a garanti que le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point que cela n'arrive. On peut, en tant que chrétien, prendre les paroles, les versets de la Bible, les promesses de Dieu, les prendre puis les confesser de notre bouche. On va voir la puissance de Dieu agir. Mais ça prend de la foi. Il faut que tu croies. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu y crois au verset, tu crois aux promesses, puis tu commences à les confesser, c'est des coups d'épée. Puis croyez-moi, le Saint-Esprit, il ne frappe pas dans le vide. Si le Saint-Esprit vous met un verset dans la tête, confessez-les. S'il vous montre un verset quand vous lisez la Bible, confessez-les. Il y en a un verset que j'ai trouvé dernièrement là, dans Éphésiens, dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. Il dit que Dieu, il a fait une promesse au niveau de sa nouvelle alliance qu'il était pour faire, puis on est dans cette nouvelle alliance-là, que Dieu, il dit, l'esprit que j'ai mis en vous et les paroles que j'ai mis en vous ne s'éloigneront pas de vos fils et de vos filles. Puis ça, là, puis vos petits-fils aussi. Mais quand tu le vois, le verset, tu dis, ouais, mais Seigneur, c'est pas encore accompli. J'ai-tu mis ma foi dedans pour le voir s'accomplir? J'ai-tu saisi par la foi ce verset-là, puis commencé à le confesser, puis croire que quand tu confesses le verset qui est là, c'est là que la foi va faire que ça va s'accomplir. Faut saisir par la foi les promesses, puis les confesser. C'est là que Dieu va agir. Je sais que Dieu peut faire un paquet de choses sans qu'on lui demande. Oui, il a créé tout l'univers sans que j'aille demander. Mais il demande aussi que si tu veux grandir dans ta foi, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que tu croies. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Fais-y confiance, puis il agira.
Par rapport à frapper, quand tu parles de la parole, il faut frapper l'ennemi.
C'est ça.
Il faut pas frapper...
Notre femme et nos enfants.
Ouais.
C'est ça. Il ne faut pas frapper notre prochain. Parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour ça, prenez toutes les armes de Dieu afin de lutter. L'idée, c'est un arme. On a plein d'armes. Il faut réaliser qu'ils sont là, puis on combat contre l'ennemi. Jésus, quand il était tenté dans le désert, comment il a combattu? Il est écrit. Le diable s'en vient faire une tentation. Il est écrit. Puis là, il répète le verset de la Bible. Il n'y a pas de niaisage. C'est écrit ça, puis c'est ça qui va arriver. Tiens, toi. La parole de Dieu, elle a une autre puissance. Elle peut sanctifier notre vie. Quand tu la laisses rentrer, tu l'écoutes, ou quand tu écoutes sur les CD, ou quand tu la lis en la lisant dans les livres, tu médites la parole, là, puis la parole, elle va nous sanctifier, elle va nous purifier, elle va nous transformer, comme je disais tantôt, elle va nous régénérer. Dans Jean 17:17, Jésus dit à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Par la parole de Dieu, on peut être sanctifié. C'est pas extraordinaire? C'est des choses qu'on avait oubliées. Si on les avait oubliées, il faut juste se dire, c'est là à ma disposition, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est les armes de la puissance de Dieu à ma disposition. Il faut que je croie que c'est là, puis il faut que je les utilise par la foi. On va voir un autre point de la puissance de Dieu. L'autorité du nom de Jésus. Wow! Éphésiens 1:3. Il faut comprendre là, que présentement, vous êtes tous des bénis. Quand tu es chrétien, là, vous êtes tous des bénis au bout. Là. Tu ne peux pas être plus béni. Tu ne peux pas être béni parce que tu as une bonne job. Tu n'es pas béni parce que tu as une bonne femme. Tu n'es pas béni parce que tu as des bons enfants. Tu n'es pas béni parce que tu as la santé. C'est sûr que c'est le fun d'avoir ça, mais c'est pas à cause de tout ça qu'on est béni. Premièrement, il faut... Il faut bénir Dieu, là. Éphésiens 1:3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Présentement, à cause que vous êtes chrétien, à cause d'avoir donné votre vie au Seigneur, vous avez une immensité, je peux même pas dire un mot assez intelligent pour expliquer comment ça, parce que mon vocabulaire est limité, là, mais un mot pour dire comment est-ce que c'est grandiose les bénédictions qu'on a présentement dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, c'est déjà tout là à notre disposition, tout est déjà payé, c'est accessible par la foi. Si vous avez la foi, vous allez saisir toutes ces bénédictions-là. Si vous y croyez pas, vous allez négliger. Il y en a qui ont cru que Jésus sauve, qui sont accrochés au salut par Jésus, puis ils n'expérimentent rien d'autre, parce qu'ils s'accrochent à rien d'autre. Être sauvé, c'est bon, c'est beau, c'est extraordinaire, on se retrouve au ciel, mais il y a plus que ça. La vie chrétienne, c'est une vie de marcher dans les promesses de Dieu. C'est une vie de miracles, de signes, de prodiges. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les lieux célestes pour comprendre cette bénédiction-là qu'on a présentement. Dans Éphésiens, là, je viens de vous dire qu'en Éphésiens 1:3 nous dit qu'on est déjà des bénis dans les lieux célestes. Éphésiens 1:16, il dit, là, il dit que Paul il est en prière puis il continue à louer le Seigneur pour qu'on ait une révélation, verset 17, qu'on ait une révélation dans sa connaissance. C'est quelque chose qu'il faut grandir dans le Seigneur, dans la connaissance, pour comprendre tout ce qui est de ces bénédictions-là qui sont dans les lieux célestes. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas le demander. Mais il veut que tu comprennes, il faut que tu grandisses dans la connaissance. Il y a des choses que tu peux saisir aujourd'hui même, qui sont là dans les lieux célestes, si tu y crois. Là, il dit qu'il illumine tes yeux, puis que tu comprennes, puis ainsi de suite. Il dit qu'il a déployé en Christ cette puissance-là qui est à notre disposition en le ressuscitant d'entre les morts, puis il l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Jésus, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Puis ça nous dit qu'on est des bénis dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre bénédiction est à cause de qui? Est à cause de Jésus qui est assis dans les lieux célestes. Puis les bénédictions sont accessibles à tous ceux qui passent par Jésus. Il est assis présentement, là, tenez-vous, là, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Il est au-dessus de tout nom qu'on peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Tout a été mis sous les pieds de Jésus. C'est le chef suprême de l'Église. L'Église, c'est son corps à Jésus, puis il nous remplit tous, Jésus. Il faut comprendre que Jésus, présentement, il est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de tout nom qui peut se nommer. Jésus est le nom suprême, le nom au-dessus de tous les noms. La puissance de Dieu, il dit, l'autorité du nom de Jésus, là, est là. Jésus, tous les genoux fléchissent devant le mot « Jésus ». Devant son nom. Quand le nom Jésus est mentionné dans le ciel, tous les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, des milliards, ils se prosternent devant Jésus. Tous genoux fléchis dans les cieux et sur la terre. Un jour, tous les genoux ont fléchi sur la terre. Même si les gens ils disent, « Oh, moi, jamais je vais plier le genou devant Jésus. » Il y en a qui disent ça aujourd'hui. Mais qui arrivent devant, ils vont tomber. Seuls, les genoux vont le lâcher. S'ils seraient encore dans leur corps, ils feraient le besoin dans leur culotte. C'est pas des farces. C'est arrivé à des serviteurs de Dieu. Ils ont tombé sur leur face. Mais qui voient Jésus, puis qui disent le mot Jésus, tout va tomber roux. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, puis dans ce nom-là, il y a de la puissance. Savez-vous que Jésus existait avant de venir sur la terre en forme de Jésus? Oui, parce qu'il est venu en forme humaine. Mais avant ça, il existait. Il a retrouvé la gloire qu'il avait avant de partir. Puis il a dit, quand il est ressuscité, tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. Jésus est le tout pouvoir. Saviez-vous que la Bible nous dit que c'est Jésus qui a créé toutes choses? La Bible dans Jean dit, Jean 1, « Au commencement était la parole. Ça, ça dit au verset 14, la parole a été faite chair. Ça, c'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, puis en elle, on a la vie, en la parole, en Jésus. Toutes choses ont été faites par elle. Tout ce qu'on voit de visible, qui nous semble étendu à l'infini, c'est tout Jésus qui a tout fait ça. Puis dans le ciel, c'est lui qui a tout créé aussi. C'est le créateur de toutes choses. Puis on peut aujourd'hui comprendre l'autorité qu'on a dans ce nom-là, qui est le nom au-dessus de tout nom. Éphésiens, là, en premier, j'ai dit qu'on est déjà des bénis dans les lieux célestes, que Jésus est assis dans les lieux célestes au-dessus de toute chose, puis Éphésiens 2, qui est juste encore une coche de plus, au verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Wow! Là, 2-6, Éphésiens 2-6. Il nous dit qu'on est déjà des bénis. Il nous explique un peu plus loin que c'est Jésus qui est assis dans les lieux célestes au-dessus de tout. Là, il nous dit que maintenant, en tant que chrétien, tu es ressuscité avec les autres chrétiens. On est tous assis en Jésus-Christ. On est assis dans le nom qui est au-dessus de tout nom. On est assis dans l'autorité du nom de Jésus, le Créateur de toutes choses. Quand Jésus a dit à ses disciples dans Luc 10, 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ça commence à rentrer. On est assis dans l'autorité du nom de Jésus, puis on a un pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Pas à cause que je m'appelle Daniel Poulain, il n'y a rien pour marcher sur la puissance de l'ennemi. C'est à cause que je suis assis dans un nom qui est le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. À cause que je suis assis dans le nom de Jésus, j'ai une autorité que j'ai présentement de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de maladie. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de souffrance. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de problème. Ça ne veut pas dire que je ne perdrai pas votre emploi. Non. Jésus a tout eu ça, lui. Jésus, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus a goûté la mort physique. Jésus, il était pauvre, il n'avait rien. Il n'avait même pas une place pour demeurer. C'était un vagabond. Il vivait sur les dons des autres. Dans le temps de son ministère, Jésus n'avait rien de plus à cause qu'il était Jésus sur la terre. Jésus nous a promis qu'il pourvoirait tous nos besoins, mais il n'a jamais dit « Attendez-vous les grosses richesses et les gros plaisirs. » On n'est pas appelé à ça. Dans notre vie, on est appelé servir, marcher dans cette puissance, marcher dans ses dons, marcher dans son autorité, en réalisant que le sang de Jésus nous garde en contact, nous purifie, puis on marche avec sa puissance sur l'ennemi. Pour pas laisser l'ennemi venir nous voler des promesses, venir nous faire oublier tout ce qui est à notre disposition, puis que là, on est découragé puis on se laisse aller. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'on pourra en parler pendant longtemps. On pourra, si Dieu le permet, plus tard de revenir sur ces sujets-là, puis les expliquer encore plus en profondeur. Moi, c'est un survol. Mais réalisez que vous êtes dans l'autorité du nom de Jésus. Un autre moyen puissant, un autre outil, une autre arme puissante que Dieu a donnée à un chrétien. La prière et la louange. Il y a de quoi de puissant là-dedans. Là. C'est pas juste, on chante pour chanter. Non. Parler à Dieu, là, puis le louer, ça paraît insignifiant. Il y en a qui trouvent ça même, c'est méprisable, là, c'est dégradant là, quand quelqu'un prie, quelqu'un parle à Dieu ou qui loue Dieu. Ça peut même paraître comme un signe de faiblesse, mais tant mieux, gloire à Dieu, parce que c'est quand on est faible qu'on est fort. Mais c'est bien plus que ça, c'est un entretien qu'on a quand on prie et qu'on loue le Seigneur. C'est un entretien avec le Seigneur, puis c'est en même temps, c'est un remplissage qu'on reçoit de la puissance de Dieu dans nos vies. Dans prière, il y a un verset que Luc 21, 36 nous dit, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans la prière, tu vas chercher de la force. Tu vas chercher la puissance de Dieu. Tu vas chercher ce que tu as besoin pour passer à travers des événements de ta vie. Ça fait partie de ce qui est à ta disposition. Si on ne prie pas, on se prive de ce qui est déjà à notre disposition. Éphésiens 5, 18, ça nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Quand un chrétien commence à prier, il reçoit de la force. Quand il se met à louer, il est rempli du Saint-Esprit. Hallelujah! C'est la puissance de Dieu qui est en toi, puis qui va te faire remplir donc ton cœur de courage, puis de zèle, puis le goût d'avancer. C'est-tu puissant? On en a parlé la semaine passée, mais c'est pas grave. Il faut se rappeler de ça, comme j'ai dit tantôt cette semaine, c'est ça que j'ai vécu, je me tentais moins, je commençais à être découragé un petit peu parce que j'étais fatigué. Quand tu es fatigué d'avance, ton corps est fatigué, là, tu te laisses aller, tu t'écoutes un peu trop. Puis là, à un moment donné, tu sens le découragement, même ces idées de musique commencent à rentrer dans le louange, fou, c'est pas long, puis ça revient tout de suite. Là, tu peux louer le Seigneur. Hein?
Il faut
pas juste s'en rappeler pour le vivre. C'est ça, il faut le faire. Il faut pas juste le savoir que ça peut le faire. C'est quand tu te mets à rentrer dans louange puis dans prière que c'est là qu'il renouvelle tes forces puis tu prends ton envol comme l'aigle. Amen. Gloire à Dieu. Il y a d'autres choses en cours de puissance. Je ne veux pas vous étirer. Je sais qu'on s'aimait ça. Hein? J'aimais ça aller manger de bonheur. Dans tout ce qui est à notre disposition en tant qu'arme du croyant, il ne faut pas oublier dans Éphésiens 6 qui nous dit Éphésiens 6, 10 à 18, là, je les lirai peut-être pas toutes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Un chrétien ne doit pas rester faible, sans force, abattu, écrasé, sous les problèmes et les difficultés, puis tout le temps défait. Un chrétien doit se fortifier dans le Seigneur, puis par sa force toute puissante, tu vas te revêtir des armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, il manigance ses trucs pour essayer de nous faire tomber, de nous faire oublier, de nous faire qu'on ne va pas puiser cette puissance-là, puis là, on ne marche plus dedans. Puis là, il dit de se fortifier. C'est quelque chose que tu fous à le chercher. Il faut que tu sois fortifié de sa force à lui. Parce qu'on le sait qu'on n'a pas à lutter contre les humains, contre la chair et le sang. On a à lutter contre les principautés, et contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants d'un lieu céleste. Ça, là, c'est la hiérarchie des démons qui sont présentement là, comme dans la hiérarchie des hommes. T'as le premier ministre, t'as les ministres, t'as les juges, t'as les chefs de, comme les chefs de la police fédérale, les chefs de la police provinciale, les chefs, après ça, t'as les policiers comme tels, qui a déjà en cours d'autres grades, des sergents, tout ça, plus l'armée, c'est la même chose, t'es un général, t'as des grades. Mais dans le monde invisible, dans le monde des ténèbres, il y a la même chose. Des autorités, des pouvoirs, des esprits méchants. Puis c'est contre ça qu'on a à lutter. Tu as besoin de la puissance de Dieu, de toute sa puissance pour commencer à lutter contre tout ça. Le combat n'est pas contre les humains. Quand Lauriane a eu un conflit, le conflit n'est pas avec la personne, il est avec l'esprit qui est en arrière de cette personne-là. Elle ne s'en rend pas compte, elle est maîtrisée, puis elle réagit comme qu'elle peut, mais elle n'est pas capable de se contenir parce que s'il y a quelque chose qui l'agace, puis qui l'énerve, puis qu'elle réagit, ça prend quelqu'un qui a l'autorité qui sait qu'il est dans l'autorité du nom de Jésus, puis que le Saint-Esprit est rempli du Saint-Esprit, puis là, après ça, tu peux parler à ce démon-là. Quand Paul, rempli du Saint-Esprit, a parlé à la femme qui avait un démon en elle, puis qui a diviné, il a ordonné de sortir de cette femme-là. Il n'a pas parlé à la femme, il a parlé au démon qui était dans la femme, un esprit de python. Il a dit, sors de cette femme. Tau, le démon est parti. Puis là, elle était délivrée. Mais avant, elle réagissait avec ce qui la maîtrisait, puis elle ne savait pas. Quand Paul est arrivé, tard, il a commandé dans le nom de Jésus de sortir, et voilà, elle est délivrée. Puis là, après ça, elle était correcte. Le combat est spirituel. Là, ça nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la... Au verset 13, là, c'est là qu'il y a comme la petite conclusion de toutes les armes de Dieu à notre disposition, là, parce qu'il dit, il y en a un paquet. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est pas si ça nous tente. On a de besoin. Tu veux lutter, tu veux combattre, ça prend toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes, si t'es là tous les jours que tu vas les chercher, puis tu commences à les utiliser, tu vas pouvoir résister dans le mauvais jour. Quand t'es dans le plus pire de ta vie, ça va mal. Tu te sens oppressé, tu te sens attaqué, tu te sens opprimé, tu te sens que tu te fais voler tes affaires, tout va mal, ta santé est en train de tomber à terre. L'ennemi t'attaque sur tous les bords, tous les côtés. Prends les armes, lutte. Résiste dans ce mauvais jour-là que tu es en train de vivre. Lutte et résiste avec les armes de Dieu. Puis tu vas passer à travers par la puissance de Dieu. Puis après ça, il dit, garde ces armes-là là, pour pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Ces armes-là vont t'aider à tout surmonter. Puis après ça, tu as besoin de tenir ferme au-dessus des circonstances. Tu as besoin encore des armes de Dieu pour rester au-dessus. C'est pas juste prendre l'arme sans sortir parce que le lendemain, tu peux retomber. Ça te prend l'arme aussi le lendemain pour pouvoir continuer à rester au-dessus de toute circonstance. Je vais finir avec un dernier verset. Là, j'ai nommé 6 armes. Si on les revoit bien clairement, il y a le sang de Jésus, le revêtement de puissance qui est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'autorité du nom de Jésus, la prière et la louange, l'armure du chrétien, puis là, un homme, prenez toutes les armes de Dieu, là, l'épée de l'esprit, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le zèle à nos pieds que donne l'évangile de paix. Puis, priant tout le temps par l'esprit, toutes sortes de prières, supplications, veillez avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faut être dedans et combattre. Tu vas sortir de tes problèmes, tu vas marcher au-dessus de tout. Puis là, il y a un rappel. Le rappel du combat des premiers chrétiens. Rappelez-vous aussi votre propre combat quand vous êtes converti à Jésus-Christ. Comment est-ce que vous pouviez être prêt, même si toute votre famille s'oppose à ce que vous soyez chrétien, même si tout commence, on dirait que tout commence à aller mal depuis qu'on est chrétien, mais là, c'est l'ennemi qui commence à nous attaquer d'un bord puis de l'autre. Il dit, rappelle-toi de ça. Comment c'était zélé, comment c'était prêt à combattre, à aller de l'avant, à t'en foutre même de tout ce que les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, parce que tu savais qu'est-ce que tu venais de saisir, le salut, la vie éternelle, ton nom est inscrit dans le livre de vie. T'avais un zèle, hein, mais pas dans Hébreu, je veux dire. Hébreu 10, 32, c'est le dernier verset. « Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Rappelez-vous de ça, là. Faut que tu t'en rappelles. Aussitôt je me suis converti, j'ai commencé à avoir des combats, puis j'ai eu des souffrances. Rappelle-toi qu'un combat qui s'est engagé à partir que tu t'es converti. Tu as besoin des armes et la puissance de Dieu pour combattre. Le combat a commencé quand tu t'es converti, puis il va continuer, mais que tu quittes ce monde. Il n'arrêtera pas avant. Tant que tu vas être dans ce monde, on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Puis, sa houlette et son bâton nous rassurent. On sent les tapes que Dieu nous donne avec son bâton, qui est comme pour montrer qu'il est toujours là. C'est les petits clins d'œil de Dieu, les petits miracles, les petits signes, les petites manifestations pour te montrer qu'il est là. Puis, mais à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. On est dans cette vallée présentement, on va vivre des choses difficiles tant qu'on n'aura pas quitté ce corps. Fait que le combat, là, rappelle-toi qu'à partir que tu t'es converti, tu n'as eu des souffrances, tu n'as eu des combats, tu es encore dans le combat. Puis si on revient avec la pensée à Timothée, Paul qui dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains et par le collège des anciens. Il dit, Timothée, garde le bon dépôt. Il dit, Timothée, prends garde. Il y a plein d'exhortations que Paul est en train de dire à Timothée. Il va dire, relève-toi, rappelle-toi, Reprends, saisis tout ce que Dieu t'a donné qui est dans le dépôt. Puis il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est ça que Paul a dit à Timothée. Amen. J'espère que vous avez été encouragés.